Bon, justement, ça tombe bien que tu arrives dans la discussion parce que Bernard a parlé de ce montant forfaitaire, ou en fait deux montants forfaitaires offerts aux employés. Toi, tu penses que c'est pas une bonne chose?
Ben, écoute, pour le gouvernement, oui, mais pour une fois, je vais dire, je suis d'accord avec les chefs syndicaux pour leur argumentation mathématique. Quand quelqu'un t'offre un montant forfaitaire, t'as envie de dire merci, mais non merci. Parce que une hausse en pourcentage pour un salarié, c'est le combat. C'est ça qu'il y a chaque année. Tu veux te battre pour augmenter systématiquement ton revenu. Si on te compense ton augmentation par un montant forfaitaire, c'est un one-shot deal, c'est un bonus de fin d'année. C'est un, ça va influencer la perpétuité de tes augmentations de salaire à vie par en avant. Deux, ça avantage les employés actuels qui sont sur le bord de la retraite en échangeant un montant immédiat contre des augmentations futures. Et le troisième point, c'est, pense-y, là, tu négocies par exemple ta convention de 3 ans ou 5 ans, mais l'acceptation d'un montant forfaitaire au lieu d'une augmentation de salaire, ça va corriger le montant de négociation de départ dans 3 ou 5 ans, qui va corriger l'autre dans 3 ou 5 ans, c'est à l'infini. Chaque pourcentage de salaire perdu, c'est perdu à l'infini. Et j'ai fait un exemple chiffré pour le plaisir. Je te donne un exemple. Je te mets deux offres sur la table. La première offre, je t'offre à partir de 50 000 $ par année, 1,5% d'augmentation par année. La deuxième offre, je t'offre juste 1,25% par année, mais 1000 $ forfaitaires dès le départ. Alors là, tu fais tes calculs et tu te dis, hey, la deuxième offre, au total, je reçois 4782 $ ou 81 $. Puis avec la première, je reçois juste 4545 sur 3 ans et donc, je vais accepter la deuxième. Ton salaire de fin, même si tu reçois moins d'argent avec la première, parce que tu finis avec un montant à la fin de la troisième année de 52 284 au lieu de 51 899, tu te retrouves avec un montant de négociation future inférieur. Donc,
OK, toi, en résumé, là, pour que les auditeurs comprennent ton avalanche.
Oui, excuse-moi, là, j'ai fait ça vite, puis même moi, c'est dur avec le tableau que j'ai fait vite.
En gros, là, ce que tu me dis, c'est que le montant forfaitaire, c'est quelque chose d'aveuglant. C'est-à-dire que tu as l'impression, mais pas juste l'impression, là, je te donne l'argent tout de suite, mais ça se traduit pas par des augmentations futures.
Bien, c'est que si je te fais une offre sur 3 ans qui inclut un montant forfaitaire, fais bien attention, même si le montant total d'argent de plus que tu as dans tes poches est plus grand que l'autre offre, sans montant forfaitaire, regarde ton salaire ou ta rémunération à la fin. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans une vision long terme. Dans l'exemple que je te donne, tu reçois plus d'argent avec le montant forfaitaire au total sur 3 ans, mais si tu n'acceptes pas le montant forfaitaire, tu reçois un plus gros salaire à la fin des 3 ans. Donc, moi, je préfère que la référence de mon salaire annuel soit plus élevée que sur 3 ans de trouver qu'en dollars, c'est meilleur dans mes poches parce que j'ai une vision long terme. Puis avec
parce
ça,
que tu te dis, la prochaine fois qu'on va négocier, ben là, l'échelle va être déjà plus élevée.
Ben
donc,
oui. Okay. Ben oui, puis l'autre affaire, c'est que là, on va jaser des autres avantages, surtout dans le secteur public. Paul, t'es-tu prêt?
Vas-y.
Vacances, basées sur quoi? Sur ton salaire, pas sur le montant forfaitaire. Tes congés de maladie. Dans le public, là, un congé de maladie, c'est des vacances flottantes. Tu sais, je veux dire, le monde les prenne. Le régime de retraite, il est basé sur ta rémunération des dernières années. Quand tu as un régime à prestations déterminées, le montant forfaitaire n'est pas dedans. Ta rémunération variable, s'il y en a. Puis, l'argument du contrôle des dépenses, je suis comme contribuable compréhensif. C'est-à-dire que je le comprends. Et d'un autre côté, si je donne un service à quelqu'un dans le privé, là, je dis pas, le gars qui me paye, il me dit pas, ouais, mais ton service vaut moins cher parce que j'ai pas les moyens de payer. Non, c'est pas de même, ça marche, c'est off-demand. Alors, quand on décide de nationaliser un service et de rendre un service public, à un moment donné, jusqu'où la capacité de payer devient un argument? Parce qu'il y a des choix qu'on fait aussi. Alors, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris.
Okay.
Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'un montant forfaitaire, bien essayé, mais je comprends les syndicats de dire non.
OK. Un petit mot sur le remboursement de la PCU, là, il semble que c'est bien compliqué.
Ben, il y en a pour qui ça devient une affaire fiscale, parce qu'il y en a qui ont fait leur devoir. Je te donne un exemple. Depuis le début de la pandémie, s'il y en a bien qui m'ont écrit souvent, c'est les employés de Bombardier. Je ne sais pas pourquoi, ils ont été beaucoup à recevoir la PCU au début, puis à se faire dire par leur employeur, rembourser la PCU, parce qu'on a eu finalement la subvention salariale rétroactive. Et tu te souviens qu'à l'époque, on disait que c'était un ou l'autre. Donc, les employés modèles ont pris le courriel du gouvernement, puis de leur employeur, puis ont remboursé la PCU. Puis il y en a d'autres qui ont dit, hey, moi, je vais attendre, me garder l'argent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui ont remboursé la PCU, il y en a qui m'écrivent et me disent, hey, Pierre, là, j'ai remboursé la PCU. L'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a vu ça comme un acompte provisionnel. Service Canada nous a jamais répondu. Le 29 avril au soir, j'ai un témoignage, Paul, c'est presque d'autres. Le 29 avril au soir, la personne a produit sa déclaration de revenus avec ce qu'elle avait fait, tu comprends? Puis elle s'est fait traiter son remboursement de PCU comme un acompte provisionnel. Là, le 29 au soir, Service Canada t'envoie un courriel, toi. Hey, en passant, si vous n'avez pas fait votre déclaration de revenus encore, vous seriez mieux de la faire de telle façon. On est en train d'ajuster le système. Ah oui, si vous l'avez déjà fait, ah, ça va être compliqué. Et là, il se retrouve dans le fond avec une réalité. Il a remboursé sa PCU. L'ARC traite ça comme un acompte provisionnel. Là, sa déclaration de revenus est faite d'une façon. Il a soit un avis de cotisation pour dire « Oups, finalement, on a corrigé avec Service Canada, mais on n'a pas envoyé des feuillets modifiés. » Alors, ce qui est drôle, le gouvernement fédéral, Paul, dit « On n'étire pas la déclaration de revenus parce qu'il n'y en a pas de problème, mais là, tu as des employés qui n'ont pas remboursé la PCU qui aurait dû le faire au départ, qui, eux, n'ont pas de feuillet ou je sais pas quoi, fait que là, ils attendent ce qui se passe, mais ils gardent l'argent dans leur poche. Puis ceux qui ont été honnêtes se retrouvent dans un enfer fiscal administratif. » Voilà.
C'est une saison des impôts complexe, hein?
En tout cas, donner 3 semaines de plus, ça n'aurait pas été si grave. On jase.
Merci. Salut. 7h22.